RCF.
Dans la nuit du 18 juillet de l'an 64, un incendie se déclare dans Rome. Il va durer 6 jours et 7 nuits et ravager une bonne partie de la ville, faire des milliers de morts, des centaines de milliers de sans-abri. Nous allons avec vous, Catherine Salles, évoquer ce grand incendie de Rome qui est resté dans les mémoires parce que les historiens antiques en ont parlé, parce qu'il y a toute une légende autour de cet incendie dont on sait un certain nombre de choses, mais que les historiens ont beaucoup travaillé. Vous êtes, Catherine Salles, spécialiste de la Rome antique. Vous avez enseigné le latin et les civilisations antiques à l'Université de Paris, à Nanterre. Vous consacrez donc un livre à cet incendie de Rome. En fait, il s'agit d'une réédition. On va essayer, pour commencer avec vous, de se promener, en quelque sorte, dans la Rome antique, donc de cet an 64. À quoi ressemble cette ville ?
Eh bien, la Rome du 1er siècle, c'est une immense métropole. Il y a quand même 1 million d'habitants, ce qui, pour l'Antiquité, est un chiffre faramineux. C'est une ville qui a été construite sans plan d'urbanisme. On s'est contenté d'ajouter les choses les unes aux autres au fur et à mesure que la population augmentait. Ce qui fait que l'on a des quartiers avec des ruelles très très étroites, ce qui va évidemment favoriser l'incendie. On n'a pas de grandes avenues. Et on a certains endroits qui ont été choisis par les empereurs pour construire des monuments de prestige, comme des théâtres ou des... Il n'y a pas encore d'amphithéâtre à Rome, puisque ce sera la dynastie d'après qui va construire le Colisée. Mais vous avez de très belles promenades à certains endroits, mais à côté de ça, une pagaille dans le reste de Rome qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, c'est un peu le Paris d'avant Haussmann, où on a tout démoli pour avoir justement de grandes avenues, mais là, on ne l'avait pas fait.
Les constructions, la plupart d'entre elles sont en bois.
Oui, ce sont des constructions très fragiles. Bon, on pense toujours aux hôtels particuliers des nobles, qui sont des très belles constructions. Mais à côté de ça, on a dans Rome ce que l'on appelle les insulae, c'est-à-dire les îlots, qui sont des immeubles de rapport, c'est-à-dire qui sont loués, et qui peuvent atteindre 6 étages, donc c'est quand même assez haut. Mais bien entendu, on les construit au moindre coût, parce qu'on ne va pas les louer très cher.
6 étages, c'est quand même très haut.
Ah, c'est très haut. Ah oui, c'est très très haut. Donc, c'est construit plus ou moins en bois, en pisé, c'est-à-dire de la terre, quoi. Et puis, on ne met pas ce qui permettrait de sauvegarder cette maison. Tout est complètement laissé tel quel. Ce qui fait que quand la maison s'écroule, parce qu'elle s'écroulait très souvent, ces maisons, ou bien il y avait un incendie, elles sont vouées à la destruction. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'espace entre chaque maison.
Donc ça peut se propager sans
ça
aucun
propage
problème.
Sur toute une rue, des rues, je vous dis, minuscules. Hein. Il faut un peu penser, si vous connaissez, à Rome, actuellement à Rome, où vous avez le vieux Rome, ce sont des petites ruelles. Et puis le grand Rome, ce sont les grandes avenues qui permettent de circuler plus ou moins facilement.
La suite de l'histoire.
Il y a des quartiers dans Rome ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Auguste avait divisé Rome en 14 régions, c'est-à-dire 14 arrondissements, si vous voulez. Alors, il y avait des arrondissements ou des régions qui étaient très chics, tous ceux qui étaient vers le sud de Rome ou vers l'ouest de Rome. Et puis, il y avait des régions qui, au contraire, étaient très populeuses, très misérables. Il y a le quartier de Subur, qui était bien connu comme étant le repère de tous les brigands de la ville. Et puis, il y a des quartiers dans le nord de Rome, mais qui sont bordés de très grands parcs ouverts par des particuliers. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de parcs à Rome, et à l'heure actuelle, le Pincio à Rome est un des parcs d'une des maisons de l'époque de Néron.
En termes de population, la très haute aristocratie
avait
côtoie...
des hôtels particuliers très grands.
Et côtoie peuple.
Parce que tout le monde va toujours au même endroit, c'est-à-dire un des points de rencontre obligés est le forum romain, c'est-à-dire le vieux forum de l'époque républicaine, et là on a tout. On a les riches, les pauvres, les nobles, les manants, on a les esclaves, on a les femmes, parce que les femmes sortent tout à fait librement à Rome, les femmes, les enfants, il y a tout le monde là.
Et donc vous disiez environ 1 million d'habitants.
Oui, on pense qu'il y avait à ce moment-là 1 million d'habitants, ce qui est faramineux pour l'Antiquité, parce que jamais une ville dans l'Antiquité n'a atteint ce chiffre.
Catherine Salle, quelles sont les principales activités qu'on trouve dans Rome en 64 ?
Il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a toutes les activités commerciales et artisanales. Il y a tous les métiers artisanaux, c'est-à-dire le travail du cuir, du tissu, les teinturiers. Les teinturiers ont toujours été des corporations très importantes dans l'Antiquité. Ce sont eux qui reçoivent les peaux de bêtes et arrivent à les traiter pour en faire des vêtements. Et c'est pour ça que les teinturiers de Rome, déjà à cette époque-là, récoltaient toute l'urine, cet acide, l'urine. Et ça servait donc à enlever de ces peaux qu'ils recevaient toutes les saletés. Et c'est Vespasien, donc l'empereur qui sera après Néron, qui va mettre un impôt sur l'urine récoltée par les teinturiers. Et comme son fils Titus n'était pas très d'accord, fronçait le nez, l'empereur lui a répondu, l'argent n'a pas d'odeur.
C'est de ça, là vient de là,
ça vient de là, c'est cette formule, l'argent n'a pas d'odeur.
Donc les teinturiers qui constituent une grosse corporation. Donc beaucoup de commerce dans Rome.
Ah oui, aussi bien très modeste comme la vente des fruits et légumes par exemple, ou bien très luxueux. On a les magasins de parfums, les vêtements de soie, les bibelots en or, en argent, en ivoire.
Est-ce qu'il y a de l'insécurité dans cette ville ?
Ah oui, beaucoup. Pas tellement pendant la journée, mais la nuit, oui. C'est très risqué de circuler seul dans Rome. C'est pour ça que les gens s'arrangent généralement pour circuler à plusieurs.
Et donc il y a des vigiles, il y a une police,
oui, il y a des vigiles, d'une part il y a les cohortes de pompiers, et d'autre part il y a les cohortes de vigiles. Alors les vigiles sont des policiers en fait. Hein.
Mais c'est une ville dont la vie est quand même très bien organisée.
Ah oui, les institutions, enfin les
sont en place,
sont très bien hein, à Rome, mais ils n'ont jamais véritablement pensé, sauf Néron d'ailleurs, à agrandir cette ville en lui faisant traverser le fleuve, tout simplement. Il y avait le Tibre qui était là. De l'autre côté, c'était le quartier du Trastevere, ce quartier très célèbre à l'heure actuelle, mais qui était le quartier de tous ceux qui n'avaient pas le droit d'asile, en fait, tous ceux qui ne pouvaient pas entrer légalement dans Rome.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait qu'on n'ait pas l'idée d'étendre la ville au-delà du Tibre ?
C'est-à-dire qu'il y avait une enceinte, hein, et cette enceinte était sacrée. Et c'était délicat pour des hommes d'État de dire « on va construire en dehors de l'enceinte sacrée ».
Et donc, ça veut dire qu'il y a une concentration de population et d'activité
presque
dangereuse ?
Très dangereuse, oui. Il y avait des incendies très fréquents parce qu'on mangeait dans la rue. Hein, on ne mangeait pas chez soi, on mangeait dans la rue. Donc, il y avait des petits braseros avec des saucisses, une sorte de pain, enfin de polenta. Hein. Bon, ça se renversait dans la rue, vous imaginez tout ce que ça brûlait. Puis, il y avait beaucoup de bruit, surtout. Tout le monde hurlait. Et puis, vous aviez tous les battleurs, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui mendiaient et qui essayaient de faire des choses extraordinaires pour ramasser de l'argent. Les enfants en particulier, beaucoup d'enfants qui mendiaient.
Alors Catherine Salle, c'est dans ce contexte que l'incendie qu'on va raconter prochainement est intervenu. Quelles sources historiques est-ce qu'on a qui racontent ? Je parlais des historiens de l'Antiquité. Elles sont nombreuses, ces sources ?
Non, pas tellement. Mais nous avons la chance d'avoir le très long texte de Tacite, qui est quand même l'historien qui a le mieux raconté cet incendie, qui s'est appuyé sur des documents de l'époque. Il ne vivait pas tellement longtemps après Tacite, ce n'était pas très difficile, et qui, dans les annales, raconte en détail l'origine de l'incendie, comment ça s'est passé. Il y a des pages d'ailleurs extraordinaires chez Tacite de la façon dont les flammes avancent dans la ville. Elles sont comme un monstre qui se jette sur toutes les proies. Et puis, il va aussi, c'est ce qui est très intéressant pour les modernes, c'est qu'il va montrer comment on a pris les chrétiens comme bouc émissaire.
Suétone également en a parlé.
Oui, mais alors lui, c'est trois lignes. Hein. Un paragraphe. Il dit, oui, sous le règne de Néron, il y a eu un grand incendie, mais ça n'a rien à voir avec
l'évocation de Tacite.
L'évocation de Tacite qui est absolument merveilleuse.
Pourquoi est-ce qu'on en parle encore de cet incendie de Rome, Catherine Salle ?
Pour beaucoup de choses. D'une part, parce que Néron est resté un personnage célèbre, est très critiquée, et d'autre part parce que c'est la première apparition des chrétiens dans un endroit autre que Jérusalem. Et ces chrétiens qui vont devenir les boucs émissaires sur lesquels on va faire porter la responsabilité de l'incendie. Donc pour les historiens de l'Église, c'est aussi un texte très important.
L'incendie en lui-même a aussi représenté une catastrophe spectaculaire.
Vous savez, Rome était la proie d'incendies à peu près tous les 2 ans. Hein. 2-3 ans, il y avait un incendie. Bon, pas de l'importance de celui de 64. Mais par exemple, sous le règne de Domitien, je crois que c'était en 80, donc ça fait une vingtaine d'années plus tard, il y a eu un incendie aussi grand.
Mais dont on parle moins
on parle pas, on
à
dit,
cause
oui.
des circonstances dans les, que vous venez d'évoquer.
Dans les histoires anciennes, on dit en 80, oui, il y a eu un grand incendie qui a détruit tel ou tel quartier. Mais c'est à peu près tout.
C'est dans la nuit du 18 juillet 64, Catherine Salle, que se déclare le grand incendie de Rome qui est resté dans les annales. On est sous le règne de Néron. Il fait très chaud dans Rome cette nuit-là.
Au mois de juillet, vous savez, à Rome. Hein,
il fait toujours très
toujours,
chaud.
Toujours, mais en été, il fait très chaud à Rome. C'est ce qu'ils appellent la canicule, parce qu'ils disent que c'est sous le signe du chien, c'est-à-dire d'un désastre. Les mois juillet et août, on les appelait les mois des croque-morts, parce qu'il y avait tellement de gens qui mouraient de la chaleur que, effectivement, les croque-morts avaient beaucoup d'activité à ce moment-là. Mais il faut bien comprendre que les gens qui avaient les moyens n'étaient pas à Rome.
Ils étaient où ?
Ils avaient toute leur propriété le long de la baie de Naples, le long de toute la côte italienne entre Rome et Naples. Ils étaient très bien.
À Rome, à ce moment-là, l'été ne reste que le peuple.
Oui, il devait y avoir quand même, parce qu'on nous parle, dans la Tacite nous parle d'un certain nombre de personnages importants. Donc il y en avait bien quelques-uns qui étaient là. Mais les morts se sont surtout comptés dans le petit peuple de Rome.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est une nuit où il y a un vent épouvantable. Ça prend naissance près du Grand Cirque, un petit peu au sud de Rome. Et là, ça trouve d'abord des matériaux pour continuer, parce que dans le Grand Cirque, il y avait les grandes toiles que l'on étendait au-dessus des spectateurs pour les protéger du soleil. Quand il n'y a pas de spectacle, elles sont roulées par terre. Et ça, pour le feu, c'est une merveille. Et puis, il y a tous les petits commerces qui sont autour. Il y a tous ces quartiers dans lesquels le feu circule. Tacite en fait un monstre qui ne rencontre rien sur son passage.
Facilité, comme vous le disiez, par la proximité des bâtiments
qui se touchent tous.
Les ruelles très étroites.
On peut se donner la main de part et d'autre de la rue. C'est allé très vite, c'était la nuit. C'est-à-dire que les gens ont été réveillés en plein sommeil, qu'ils ont dû repartir en catastrophe et que les rues étaient bondées. Et d'autre part, les pompiers n'avaient pas encore été avertis.
Les habitants sortent dans les rues et
oui,
cette sortie...
Ils savent pas où aller. Ils savent pas où aller.
La suite de l'histoire.
À quel moment est-ce qu'on prévient les pompiers ? On sait tout ça ?
On les prévient sans doute. Bon, ça a dû quand même, parce que c'était un corps de soldats, hein, les pompiers. Oui, on les a certainement prévenus au petit matin, je suppose. Hein. Et ils sont arrivés, mais il était trop tard pour empêcher cet incendie d'avancer vers le nord de Rome.
Mais de quoi est-ce qu'ils disposaient, les pompiers de Rome, de la Rome
antique ?
Ils
avaient des sortes de voitures à pompe, enfin avec de l'eau dedans. Ils avaient des tuyaux, ils avaient des seaux. Théoriquement, il devait y avoir à chaque carrefour une fontaine où ils pouvaient prendre de l'eau. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui avaient utilisé les fontaines pour leur usage personnel. Il n'y avait plus toutes ces fontaines. Si, ils étaient bien équipés, ils étaient surtout très bien entraînés. Mais là, il n'y avait pas le... Ils ne pouvaient rien faire. Hein. Ils étaient peu nombreux. Et les machines qu'ils avaient, même si elles sont très perfectionnées pour l'Antiquité, n'étaient pas comme les machines que nous connaissons maintenant.
Il n'y avait pas de problème d'approvisionnement de l'eau ?
Ils faisaient la chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui allaient puiser de l'eau et qui leur rapportaient pour faire marcher les machines.
Comment est-ce qu'il a progressé cet incendie qui...
Alors, il a donc débuté, le Grand Cirque est un peu au sud de Rome, et il est monté, ça doit être le vent devait aller dans ce sens-là, devait aller du sud au nord. Il est monté et il est arrivé sur le Forum, il est arrivé sur le Capitole, il est arrivé sur le Palatin où il y avait le palais de Néron, il est arrivé dans tous ces quartiers. Et c'est pour ça qu'il a été aussi tellement spectaculaire, c'est que tous les monuments les plus anciens, les plus célèbres de Rome ont disparu. Tout a été brûlé.
Est-ce qu'on sait le nombre de victimes qu'il a fait ?
Alors les victimes, on ne sait pas très bien parce que personne ne nous donne le nombre de victimes, mais on sait qu'il y a eu à peu près 200 000 habitants sans logis.
Et des dizaines de milliers de morts, on imagine.
Oh oui, certainement, certainement. Et plutôt par la cohue de la foule, hein, plutôt que par l'incendie lui-même, certainement. Je vous dis, il suffit de comparer ça aux catastrophes que nous voyons actuellement dans certains pays, et on voit bien comment ça se passe. Les gens se marchent les uns sur les autres.
Donc il a duré six
jours. D'abord six jours. Il s'est arrêté un peu après le Palatin. Et puis on ne sait pas pourquoi, il a ressurgi, et après ça a duré encore 4 jours.
Impossible de le maîtriser.
Oui, sauf quand Néron va arriver, lui va prendre des mesures très efficaces.
Alors, où était Néron ?
Alors, Néron ne se trouvait pas à Rome. En plein été, l'empereur n'était pas à Rome. Il était à Antium, qui est une petite localité qui est à une cinquantaine de kilomètres de Rome. C'était là où il est né, donc il aimait beaucoup cette petite ville. Mais on l'a prévenu dans la nuit, et il est arrivé tout de suite, aussi vite qu'il le pouvait. Il avait quand même 50 kilomètres à parcourir. Et il a pris tout de suite des mesures très efficaces.
Du style ?
Il a d'abord fallu qu'il parlemente avec les chefs des pompiers, avec tous ses ministres qui étaient bien sûr revenus aussi sur Rome. Et on a donc, d'une part, pour tous ces sans-abri qui n'avaient plus rien, il a ouvert, il avait une propriété au Vatican, et il a ouvert la grande plaine du Vatican où tous ces gens, on leur a construit des tentes, enfin là aussi comme on fait un peu partout.
D'urgence.
Enfin, d'urgence. Et puis il avait entendu dire, et il a eu raison d'ailleurs, qu'il fallait ne pas laisser de nourriture au feu.
Pourquoi ?
Ben, vous savez, on dit il faut faire la part du feu. C'est-à-dire que quand il y a un incendie ou même un feu, il faut, pour que le feu ne se propage pas, il faut mettre un endroit où il n'y a rien. Donc il a fait détruire toute une ceinture de maisons et d'appartements pour arrêter la progression du feu. Et c'est pour ça qu'il y a eu, au bout de 6 jours, ça s'est arrêté, mais ça a repris. Et c'est ça qu'on lui a le plus reproché d'ailleurs, alors que c'est la mesure la plus efficace que l'on puisse faire, c'est couper la route du feu.
Cet incendie n'était pas le premier ?
Non, pas du tout, je vous dis, depuis
n'était pas le dernier.
Depuis la fondation de Rome, il y en avait tous les 2 ans. Alors Rome était fondée depuis 700 ans, donc il y en avait eu encore beaucoup.
Ce qui est étonnant, on y reviendra plus précisément, Catherine Salles, c'est la controverse qu'il y a eu après et le bruit qui a couru.
Exactement.
Sur l'origine de cet incendie. Alors, incendie accidentel ?
Alors, bien sûr, il y en avait qui voulaient que ce soit un incendie criminel. C'est-à-dire, on a tout de suite accusé Néron d'avoir mis le feu. Parce que, il va y avoir cette légende selon laquelle il aurait voulu voir une ville brûlée, parce qu'il était en train de composer un poème sur la chute de Troie, et Troie avait péri dans un incendie. Bon, il y a quand même une chose à remarquer, c'est que Néron n'était pas à Rome au moment où le feu a éclaté. Donc, s'il avait voulu voir comment un feu éclatait, il aurait été à Rome. Et puis, on savait d'autre part qu'il avait l'intention de reconstruire Rome, c'est-à-dire d'en faire une ville moderne. Et donc, il fallait débarrasser tous les vieux quartiers de Rome pour avoir l'espace pour construire. Et il voulait faire une Urbs Nova, c'est-à-dire en grec, Néapolis. Il voulait faire cette Néapolis qui serait probablement, d'après ses plans, aller de la ville de Rome actuelle jusqu'au port d'Ostie, qui est quand même à une vingtaine de kilomètres de Rome. Et c'était pas idiot comme idée, c'est pas du tout une idée idiote, mais on a dit c'est pour se faire briller aux yeux des gens, et c'est lui qui a mis le feu.
Donc c'est comme ça que...
C'est comme ça en particulier que la légende s'est faite.
La légende s'est faite.
Tout ce qu'il a fait à ce moment-là était tourné comme étant des actes criminels.
et des raisons valables, entre guillemets, pour justifier un éventuel
acte criminel. Voilà. Mais il avait des ennemis très, très violents à ce moment-là. Il y avait tout un groupe qui, d'ailleurs, l'année suivante, fera une immense conjuration qui a failli faire tomber Néron. Et tous ces gens-là, c'était les familles les plus nobles de Rome. Ils se sont donné libre cours à toutes les critiques, à tous les crimes qu'ils imputaient à cet empereur.
Donc ça, cette accusation, ces accusations arrivent immédiatement. Elles ne sont pas construites plus tard par
Non, elles arrivent immédiatement. Il y a des gens, parce que vous savez, aussi dans ce genre de catastrophe, il y a les rumeurs. Et il y a des gens qui disent, oui, on a vu des esclaves de Néron en train de mettre le feu aux maisons. Ce qui est certainement faux. On voit bien que Néron n'avait aucun intérêt personnel à faire brûler cette ville, parce que dans l'incendie, son palais a disparu et il avait, c'était un très grand amateur d'œuvres d'art, Néron. Il en avait récolté dans tout le bassin méditerranéen. Il y avait des musées entiers de statues, de peintures, de tout ça. Et tout a disparu dans l'incendie. Alors s'il avait voulu mettre le feu à Rome, il aurait peut-être fait sortir d'abord ces merveilles.
Catherine Salle, on l'a dit, certains ont accusé Néron d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé Rome en 64. Il faut dire qu'il a une mauvaise réputation qui lui colle encore à la peau aujourd'hui d'un espèce de fou sanguinaire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux quand on est historien? Comment est-ce qu'on fait la part des choses?
Alors tout d'abord, Néron n'était pas détesté par tout le monde. Le peuple l'adorait. Quand il est mort, ça a été un deuil national pour le peuple romain. Bon, ceux qui le détestaient, c'était la noblesse. C'était les sénateurs, c'était les gens haut placés qu'il détestait.
Pourquoi?
Parce qu'il trouvait qu'il ne tenait pas son rôle d'empereur comme il fallait. Et que d'autre part, il mordait sur leur richesse. Il y a eu beaucoup de lois faites par Néron. Et certaines, effectivement, n'étaient pas favorables aux classes les plus élevées. Puis il faut dire que ce personnage est tout à fait fantasque. Il n'a rien à voir avec les empereurs qui l'ont précédé. C'est le dernier représentant de la dynastie julio-claudienne, c'est-à-dire celle qui a commencé avec Auguste et qui prétend descendre de César, oui, indirectement de Jules César, et qui a été illustrée par les empereurs Tibère, Caligula, Claude et Néron. Auguste a été un très bon empereur, oui, mais Tibère était très mal vu de la population, Caligula, alors lui, était complètement fou. Claude était un homme intelligent, mais qui ne se faisait pas apprécier du peuple romain, et puis il y a eu Néron. Alors Néron, lui...
Qu'est-ce qu'on sait de lui?
On sait beaucoup de choses, parce qu'il y a eu la vie par Suétone, Tacite en parle beaucoup, bien sûr, dans les annales. Alors il était le fils d'Agrippine la Jeune, il y a deux Agrippines dans l'histoire de Rome. Il y a Agrippine l'aînée, qui était l'épouse d'un des héritiers d'Auguste, de l'empereur Auguste. Elle avait eu 10 enfants, et parmi ses filles, il y avait une Agrippine aussi, qui, elle, est Agrippine la Jeune, celle que nous connaissons beaucoup mieux. Et Agrippine la Jeune avait d'abord été mariée à un noble romain qui était un personnage particulièrement odieux. Il s'amusait dans les rues de Rome à passer à toute allure avec son char pour écraser les enfants. Et de ce mariage était né un garçon. Après, il s'appellera Néron, mais au départ, il ne s'appelait pas Néron. Et heureusement, le mari d'Agrippine est mort assez rapidement. Elle s'est remariée avec un autre personnage romain, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, c'est le moment où l'oncle d'Agrippine, c'est-à-dire l'empereur Claude, arrive au pouvoir. Et l'empereur Claude a une très jolie femme, très jeune, qui s'appelle Messaline. Et Messaline, évidemment, commet des actes, d'après ce qu'on raconte à Claude, qui ne sont pas moraux. Et Claude fait tuer Messaline. Et il faut qu'il se remarie. Un empereur doit être marié. Et alors, il y a toutes les jeunes femmes de Rome sont autour de l'empereur. Et c'est sa nièce, Agrippine, qui va être la plus caressante, la plus gentille. Or, il y avait un décret qui interdisait le mariage d'un oncle avec sa nièce.
Mariage incestueux.
Voilà. Bon, il est empereur, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit le Sénat, il fait voter une loi selon laquelle un oncle peut épouser sa nièce. Alors, il va donc épouser Agrippine, ça, il aurait peut-être mieux fait de ne pas le faire, parce qu'Agrippine a une telle ambition, est tellement autoritaire et brutale, qu'elle va faire tout ce qu'elle peut pour que ce soit son propre fils qui soit le successeur. Alors que Claude a un successeur, il a un successeur qui est Britannicus, et là, c'est évidemment, elle va empoisonner Claude, bien connu avec le plat de champignons, et ensuite...
Porter son fils au pouvoir.
Eh oui, et dans la nuit même où Claude est mort, elle sort du Palatin avec Néron, elle le présente à l'armée, c'était l'armée qui décidait si un homme pouvait être empereur ou non, et l'armée acclame le jeune Néron, il a 15 ans, comme empereur.
La suite de l'histoire, Véronique Alzieu.
Et donc vous racontez dans le livre, Catherine Salle, que en fait Néron a été l'instrument de sa mère.
Ah oui.
Et
elle avait
15
ans. Et elle l'avait toujours.
Très ambitieuse.
C'était une mère cassatrice, il n'y a pas de problème. Et elle a voulu, les premières années du règne de Néron, continuer à jouer ce rôle-là, c'est-à-dire qu'elle intervenait au Sénat, elle intervenait en public, bon, ce qui ne se faisait quand même pas à Rome. Puis au bout de 3-4 ans, Néron, il en a eu assez. Surtout qu'il était amoureux d'une jeune affranchie, sa mère ne voulait pas qu'il voit cette affranchie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa mère. On se tue de génération en génération. Un meurtre d'ailleurs extraordinaire, si on peut dire, puisqu'il va, mettre sa mère sur un bateau pour qu'elle rentre chez elle dans la baie de Naples. C'est dans la baie de Naples. Or, le bateau est un bateau truqué.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que lorsque le bateau se trouve en pleine mer, le plafond s'effondre sur l'endroit où est couchée Agrippine. Et elle n'est pas touchée. Donc, elle s'échappe. Elle saute du bateau avec sa suivante. Et la suivante a la mauvaise idée de dire « C'est moi l'impératrice, c'est moi l'impératrice !» Tous les marins qui étaient sur le bateau, à coups de gaffe, l'ont fait noyer. Agrippine a tout à fait compris ce qui se passait. Et elle va nager jusqu'à la côte, c'est-à-dire qu'elle n'est quand même pas toute jeune, mais elle va nager jusqu'à la côte. Elle va être accueillie par les habitants, on l'aimait bien Agrippine. Et puis Néron entend la chose, et il envoie quelques soldats qui vont égorger Agrippine. Et il va venir, et vous savez, quand il a vu le cadavre de sa mère, avant qu'elle soit tuée, il a dit à un des centurions qui était là, « Frappe au ventre, c'est là où a été engendré le monstre ».
C'était lui le monstre. Pourquoi se considérait-il comme ça?
Parce qu'autour de lui, on avait tendance à le considérer, non pas parce qu'il avait... Enfin, quand même, il a tué déjà sa mère, il va tuer Britannicus tout de suite après, parce que Britannicus était quand même le fils légitime de Claude, ce que n'était pas Néron.
Donc le rival.
Le rival. Et puis, il va tuer d'autres personnes. Enfin, je n'entre pas dans le détail, parce que...
Donc il était vraiment un monstre?
À ce moment-là, pas tellement, sauf quand même le matricide. Le matricide est quand même un crime très haut dans l'échelle des crimes. Mais ce qu'il avait surtout, c'est que pour lui, le monde entier devait être artistique. C'était un esthète, il était chanteur, il était danseur, il a composé des œuvres littéraires, des poèmes, et il estimait qu'il allait réformer le monde en faisant un monde du beau. Et de l'esthétisme.
Une espèce de mégalomane?
Ah oui, oui, pour ça, oui. Ce qui n'était pas peut-être une mauvaise idée en soi-même, mais qui ne pouvait pas s'adapter à Rome, parce qu'il voulait que tout passe par l'art. Il y avait des danseurs partout, il y avait des chanteurs, il y avait lui-même qui déclamait ses œuvres un peu partout. C'est de là d'où vient d'ailleurs, là aussi une légende, de Néron chantant la guerre de Troie devant l'incendie de Rome. Il avait autre chose à faire que de chanter la guerre de Troie devant l'incendie de Rome. Mais... C'était un psychopathe, quand même, Néron, ça, il ne faut pas s'en cacher. Bon, il avait des raisons de l'être, parce que tous les membres qui le précédaient dans la famille avaient plus ou moins été fous, et son oncle Caligula en particulier, il était particulièrement. C'est-à-dire qu'il ne souffrait pas qu'on aille à l'encontre de ce qu'il voulait. Et quand on voulait aller à l'encontre de ce qu'il voulait, il tuait. Il était empereur, il tuait. Et puis après, il était bourré de remords, pendant très longtemps, après le meurtre d'Agrippine, il va passer plus d'un an à avoir des cauchemars toutes les nuits, à se lever en hurlant parce que le fantôme d'Agrippine lui apparaissait. Donc, c'était un criminel, mais qui n'acceptait pas les crimes qu'il commettait.
Un triomphe pour divertir le peuple. Qui me divertit, moi? Je suis un esclave, l'esclave de cette foule. Je ne m'appartiens pas.
Extrait du film « Covadis » avec Peter Ustinov, réalisé en 1951 par Mervyn Leroy.
Tu es le soleil dans leurs ténèbres. Est-ce que le soleil s'appartient, divin?
Le soleil à la nuit. On me demande de briller chaque jour, à toute heure. Et pour qui? Pour le peuple. Pour cette populace infecte.
Donc vous le disiez, Néron est quelqu'un qui manifestement souffre de problèmes d'ordre psychologique.
Oui, oui, et puis qui en plus est quand même un être étrange pour les Romains, parce que ce garçon, parce qu'au début, je vous dis, il a commencé à régner, il avait 15 ans. Donc il y a eu quand même plusieurs années où il n'était pas vieux. Il se prend pour Apollon d'abord, hein. Alors il est coiffé comme Apollon, il a des longues boucles qui lui tombent, il était roux hein, en plus Néron, alors des longues boucles rousses qui lui tombent sur les épaules. Il aime bien se promener en robe de soie. Bon, ça, pour les Romains, c'était pas non plus tellement conforme à ce qu'il fallait faire. Et puis, il fallait que l'art soit présent partout. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à l'art. Alors, il va faire des tas de fondations, de créations pendant son règne, uniquement pour l'art.
Et donc, il se fait des ennemis beaucoup plus tard.
Oui, oui, il se fait parce que pour les Romains, c'était quand même pas digne d'un Romain, justement, de s'intéresser tellement à l'art. Ce sont les Grecs qui s'intéressent à l'art, ce ne sont pas les Romains.
Certains ont un intérêt à l'accuser de cet incendie, alors qu'il intervient plus tard.
Oui, mais on l'accuse de tout ce qu'il fait, en fait. Et puis, je vous dis, il y a cette grande conjuration qui est en train de se mettre sur pied au moment de l'incendie, parce que ça a duré 2 ou 3 ans, là. La constitution de cette conjuration de Pison, qui a réuni tout le gratin de Rome, tous les sénateurs, les chevaliers, les officiers. Tout le monde a fait partie de cette conjuration.
Qui a échoué ?
Elle a échoué parce que il y a quelqu'un qui a trahi, en fait, qui a fait savoir à l'empereur qu'il y avait cette conjuration qui se préparait. Et c'est là où il y a une des plus jolies histoires des annales de Tacite. C'est que parmi les conjurés, ils étaient très nombreux. Il y avait la maîtresse d'un des conjurés qui était une affranchie. Donc, quelqu'un qui n'était pas de race romaine, qui en plus affranchi, c'était quand même presque un des derniers degrés, elle avait été esclave. Et on l'a amenée à la cour de l'empereur pour qu'elle dénonce tous ceux avec qui elle était. Et c'est la seule, dans tous ces hommes qu'on a arrêtés, tous ils ont dénoncé. Le poète Lucain a dénoncé sa propre mère. Enfin, ça a été dénonciation sur dénonciation. Et elle a refusé de dire un seul nom, on l'a torturée, et quand on l'a ramenée dans sa litière à la prison, elle a pris son soutien-gorge, parce que les soutiens-gorge, c'était des bandes qu'on se mettait autour, et elle s'est pendue au cadre de sa litière. C'est elle seule qui a été héroïque dans toute cette triste affaire de la conjuration de Pison.
Catherine Sale, Néron étant accusé du grand incendie de Rome, il cherche à son tour un bouc émissaire.
Évidemment.
Pour expliquer cette catastrophe qui, encore une fois, aura coûté la vie à des dizaines de milliers de Romains.
Il y aura détruit. Il y a eu 3 des 14 quartiers de Rome qui ont été entièrement anéantis jusqu'au sol. 4 qui ont été très endommagés. Et puis les autres, qui étaient tout à fait en bordure de Rome, eux ont été, bon, enfin ce n'est pas les plus beaux quartiers de Rome, qui ont été épargnés.
Les chrétiens sont donc les coupables tout trouvés ?
C'est-à-dire qu'une telle catastrophe, il faut que ce soit les dieux qui l'aient provoquée. Parce que les Romains avaient donc commis certainement une impiété à l'égard des dieux. Alors on fait des tas de cérémonies religieuses, on essaie de... Mais bon, les bruits continuent à courir que c'est Néron qui a allumé cet incendie. Alors Néron, eh ben, il dit on va prendre des gens que la population de Rome n'aime pas, qui peuvent être considérés comme des impies, parce qu'ils n'honorent pas les dieux de Rome. Et ce sont les chrétiens. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Tacite, qui donc suit les textes officiels, emploie le mot chrétien. Alors c'est la première fois que le mot chrétien apparaît dans la littérature. Jusque-là, ces chrétiens de Rome étaient assimilés à des juifs, parce que la plupart étaient quand même des juifs convertis au christianisme. Tandis que là, il y a déjà des chrétiens qui ne sont plus d'origine juive. Pendant longtemps, on a eu des judéo-chrétiens, et là, on a maintenant des pagano-chrétiens.
Alors, qui sont ces chrétiens à Rome ?
On ne sait pas. On ne sait pas.
Mais parce ça que... représente une communauté
non.
importante
Ceux qui ont été exécutés, ils étaient peut-être 70, enfin, ils n'étaient pas très très nombreux, enfin, bon, c'est toujours quand même 70 personnes. Hein. Non, ils ne devaient pas être très très nombreux. Et puis la population les confondait encore un peu avec les juifs. Or les juifs avaient un statut privilégié à Rome.
C'est-à-dire ?
Ah, les juifs, c'était l'empereur Auguste qui leur avait donné ce statut. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de vivre en communauté, d'avoir des synagogues. Ils avaient le droit d'élire à l'intérieur de leur communauté les chefs de la communauté. Ils avaient le droit de ne pas travailler le jour du Shabbat. Ils avaient le droit de ne pas être intégrés dans l'armée parce que c'était contraire à leur loi. Donc les Juifs ont été très protégés par Auguste, tout simplement, enfin, je ne vais pas remonter dans le détail, mais parce que ces Juifs de Rome, il y avait quand même une assez importante communauté à Rome, avaient voté pour Auguste lors d'une élection. Donc Auguste les avait protégés de cette façon-là.
Les chrétiens ne bénéficiaient pas de ce genre
de protection. Les chrétiens, jusque-là, s'ils étaient juifs, oui. Ils en bénéficiaient de toute
mais
façon.
Mais après, à ce moment-là,
apparemment,
ils sont
là, ils n'ont pas bénéficié du tout d'une protection. Donc, c'était probablement des Romains devenus chrétiens. Mais on n'en sait pas grand autre chose, vous savez, parce qu'on n'a pas de documents de cette époque, on n'a rien. On n'a rien, sauf, mais là aussi, ce sont des récits, enfin, je voudrais choquer personne, mais qui sont soumis à incertitude. C'est le martyr de Saint-Pierre et le martyr de Saint-Paul. Mais là aussi, ça a été raconté tellement plus tard. Parce que Saint-Pierre serait mort, hein, au moment de l'incendie. Il aurait fait partie de ceux qui ont été suppliciés, d'après ce que l'on dit. Bon. Ça, moi, je ne me prononce pas là-dessus.
Donc, il aurait fait partie des chrétiens arrêtés après l'incendie et exécutés.
Et Paul a été arrêté pas très longtemps après, d'ailleurs. Il est mort dans la banlieue de Rome, lui, Paul. Alors là, on va dire, si les dieux sont tellement en colère, c'est parce qu'il y a dans notre population des gens qui n'ont pas le droit d'y être, parce qu'ils n'honorent pas nos dieux. C'était très facile, parce que dans l'Antiquité, vous savez, il y avait un syncrétisme extraordinaire, c'est-à-dire que on n'attaquait personne pour sa religion. Moi, j'adore Jupiter, toi, t'adores Baal. Bon, bah, c'est le même dieu sous un nom différent. Donc, il n'y avait pas du tout de persécution religieuse hein, chez les Romains. Mais là, c'était différent. Parce que, probablement, cette communauté, dont on ne savait pas très bien ce qu'elle était, a probablement
mécontenté
les dieux. Donc, il faut la punir. Donc on fait des procès, on leur a demandé qui reconnaissait-il comme Seigneur, et bien sûr ils ont tous répondu, nous reconnaissons Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à ce moment-là, bon, ils étaient condamnés. Alors, ils n'étaient pas encore très très nombreux, ce n'étaient que des hommes, hein, il faut bien dire, malgré tous les romans qui ont été faits par la suite, on voit des femmes, non, ce n'étaient que des hommes. On les a amenés dans la plaine du Vatican, là où se trouvaient tous les réfugiés de Rome, les sans-abri, pour leur montrer, vous voyez, on pense à vous, on a arrêté les coupables. Et on va prendre tous ces chrétiens, on va les attacher aux arbres. C'est un jardin, hein, le Vatican. On va les attacher aux arbres de ce jardin et on va mettre le feu. C'est-à-dire qu'ils vont se transformer en torches géantes.
Cette communauté, vous disiez que c'est important d'en parler parce que c'est la communauté de Rome
bien
et
sûr.
Que jusque-là, on n'en avait jamais eu.
On confondait les Juifs et les chrétiens parce qu'on a des passages de Suétone où il est question de persécution de Juifs et on pense que ce sont plutôt des chrétiens. Hein. Mais on ne sait pas grand-chose sur eux. On dit qu'ils sont apparus sous le règne de Tibère, oui, ça, ils le savent. Qui ont-ils comme conducteur, en quelque sorte? Ils ne savent pas très bien qui c'est. Hein. Il y a Jésus, oui, il y a Jésus, mais on ne sait pas qui c'est. Ils n'ont pas d'organisation encore à ce moment-là. Ils n'ont pas. Vous savez, l'Église chrétienne est vraiment née en Orient. Hein. Les premières églises chrétiennes, ce sont les églises orientales. Et là, on va avoir une des premières églises occidentales, justement, qui va se former avec ses responsables, avec pas ses lieux de culte, bien sûr, il n'y avait pas de lieux de culte. Ils ne sont ni autorisés, ni interdits, mais enfin, si on veut les poursuivre, on peut, hein, on peut.
Ces exécutions, ces arrestations satisfont la population de Rome?
Probablement, mais enfin, oui, c'est la population. Elle a trouvé cette belle fête qu'on lui donnait, ce son et lumière qu'on lui donnait, c'était magnifique hein, pour elle. Et puis, Néron va quand même mettre beaucoup de soins à essayer de reloger les gens. Et puis, il les nourrissait, là, dans leur camp du Vatican. Tous les jours, il faisait venir du port de Rome, d'Ostie, des bateaux entiers de nourriture que l'on donnait à ces gens. Et il allait constamment les voir, il allait leur faire de la musique. Et le peuple de Rome aimait beaucoup Néron. Hein. C'était pas le peuple qui était responsable des mauvais bruits sur Néron, c'était la noblesse.
Donc la réputation qu'il a encore aujourd'hui ne correspond pas totalement à la réalité.
Non,
quoi.
Parce qu'en plus, vous comprenez, les histoires postérieures écrites par des chrétiens, que l'on voit Néron qui apparaît comme un... Il y a Néron et Domitien, ce sont les deux grands empereurs épouvantables. Parce que Néron a fait exécuter les chrétiens, et les chrétiens lui ont rendu la monnaie de la pièce.
Les chrétiens, vous voulez dire, se sont ensuite chargés d'alimenter la mauvaise réputation.
Oui. Toutes les histoires que nous avons, elles sont plus tardives, elles sont du 3e siècle, généralement 3e, 4e siècle, disent que Néron était animé de haine à l'égard des chrétiens et qu'il les a fait exécuter. Alors que ce n'est pas la réalité, ça on le sait, d'après ta suite, ce n'est pas la réalité.
RCF, la suite de l'histoire.
Catherine Salle, malgré tout, est-ce que les accusations portées contre Néron ont eu des conséquences sur lui d'abord, et puis sur l'autorité qu'il avait ?
Non, il avait quand même une grande autorité, c'était lui qui avait la police, qui avait l'armée, enfin bon, chaque fois qu'il y avait un problème, il faisait envoyer ses légionnaires, ses policiers. Non, il n'a pas eu tellement de problèmes. Mais c'est vrai que avec la noblesse, il était tout le temps en bisbille. Hein. Et en particulier, mais ça, c'est un peu plus tard, c'est un peu après, avec les philosophes. C'est-à-dire que les philosophes de l'époque, qui habitaient Rome, qui étaient d'ailleurs la plupart du temps des nobles qui fréquentaient la cour de Néron, avaient adopté le stoïcisme comme philosophie, parce que le stoïcisme ne reconnaissait pas la hiérarchie des valeurs. Et il pensait qu'un mendiant était la même chose qu'un empereur. Donc ça déplaisait beaucoup à Néron, et là aussi il a fait tuer toute une série de philosophes. Et ces philosophes appartenaient aux grandes familles nobles de Rome. Donc là aussi il a dû sévir, ben c'est vrai qu'on se moquait de lui en permanence. Hein. Il était là avec ses vêtements...
Soyeux.
Oui, soyeux, ses plumes, enfin, il était tout à fait incongru, plus qu'original, incongru. Et là, il y a eu donc jusqu'à sa fin, il y a eu quand même des groupes, et le groupe des philosophes a été beaucoup plus fort, évidemment, que le groupe des chrétiens. Et il en a été tellement dégoûté qu'il a quitté Rome, il est parti pour 2 ans en Grèce. Parce qu'il disait, les Grecs seront capables de reconnaître mes talents artistiques.
I'm totally unprepared.
Extrait du film Kovadis avec Peter Ustinov, réalisé en 1951 par Mervyn Leroy.
Oh, oh lambent flame, oh, oh force divine, oh omnivorous power hand.
Alors c'est vrai que partout où il est arrivé en Grèce, il s'est fait applaudir dans tous les théâtres de la Grèce, il a remporté tous les concours, et évidemment, il a chanté tous ses poèmes, il était ravi. Et c'est là où il a d'ailleurs eu une idée originale, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'est qu'il a commencé à faire creuser le canal, vous savez, le canal du Péloponnèse, entre le Péloponnèse et... On voit d'ailleurs encore à l'heure actuelle, sur les murs du canal actuel, on voit les traces des ouvriers de Néron qui...
Il avait fait travailler.
Oui, il avait fait venir tous les prisonniers qu'on avait fait au moment de la guerre des Juifs, il y a eu la guerre des Juifs, pour travailler dans ce canal de Corinthe. C'est le canal de Corinthe. Alors, il était très content en Grèce. Vraiment, il se dit, moi, j'aimerais habiter en Grèce parce que les gens reconnaissent mon talent, ils sont gentils avec moi, j'ai pas de problème. Et il revient à Rome au moment où, dans les légions de Germanie, c'est-à-dire d'Allemagne, et du Nord, c'est-à-dire la Belgique à peu près, il y a des révoltes qui se lèvent, et des officiers de ces légions, qui commencent à descendre sur Rome avec leurs militaires. Et alors là, évidemment, il ne sait plus très bien quoi faire, parce que c'est une situation tellement catastrophique qu'il ne sait plus quoi faire. Et quand il apprend qu'ils arrivent quand même à Lyon, c'est quand même pas très loin de Rome, eh bien, il décide de se suicider. Mais... Il a peur de se suicider. C'est un de ses affranchis qui va lui poser l'épée sur la gorge et qui va le suicider. Et après, le peuple de Rome se réunira autour de son cadavre pour lui faire des obsèques absolument extraordinaires, populaires, simplement.
En 68, ça.
C'était en 68, donc vous voyez, c'était 4 ans après. Il était parti, je crois, en 65 pour la Grèce. Il est revenu début 68.
Catherine Salle, cet incendie de Rome qui est donc intervenu au mois de juillet de l'an 64, on l'a dit, a eu un effet totalement dévastateur sur plusieurs quartiers de la ville et il a donc fallu la reconstruire, cette ville. Est-ce que Néron a pris les choses en main ?
Tout à fait. Néron, ça on le sait rarement, mais était aussi un scientifique. C'est-à-dire qu'il s'intéressait beaucoup à tout ce qui était du métier de l'ingénieur et du métier de l'architecte. Et il avait des grandes connaissances d'ailleurs dans ce domaine-là. Et pour reconstruire les quartiers du centre de Rome, qui avaient été rasés, ça il n'en restait plus rien, il va prendre des décrets qui sont d'une grande sagesse, puisqu'il va dire on va construire ces maisons, mais il ne faut pas qu'elles se touchent les unes les autres, il faut laisser un espace entre chaque maison, laisser un espace dans la rue entre la maison et celle d'en face, donc pour laisser justement le permettre au feu de s'éteindre. Il va rendre obligatoire dans chaque immeuble la présence de seaux ou de d'eau quoi, de
un point d'eau.
Un point d'eau. Et puis, il va mettre des gardes qui vont patrouiller dans les rues de Rome pour voir s'il y a des débuts d'incendie. Donc ça, c'était vraiment très bien. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques années, les gens qui habitaient dans ces quartiers, ils ont récupéré l'eau pour eux. Ils ont reconstruit des pièces dans la maison qui touchaient la maison d'à côté. Donc ça n'a pas été d'un grand effet. Mais l'intention était bonne. Il va, bien sûr, reconstruire la plupart de tous ces bâtiments qui s'étaient effondrés. Donc c'est pour ça que la Rome, même les bâtiments de Rome que nous voyons actuellement, ne datent pas, datent au plus tôt, de l'époque de Néron ou d'Auguste. Mais lui va tout reconstruire à ce moment-là. Et surtout, il va pouvoir donner libre cours à son rêve, c'est-à-dire construire une maison qui représentera le monde entier. Et c'est vrai qu'il a l'espace pour le faire. Entre le Palatin et l'est de Rome, il a plus d'un kilomètre et demi là, qui a été dévasté complètement. Donc il va construire cette fameuse maison dorée, Domus Aurea, qu'on lui a tellement reproché.
En fait, quel est l'objectif de ce lieu ?
Alors, cette maison dorée, c'était de reconstituer, mais il avait la place, là, un kilomètre et demi sur je ne sais plus combien de large, il avait beaucoup de place, de reconstituer le monde. Pour que lui était l'empereur du monde. Donc, il y avait des endroits où il y avait des montagnes, il y avait des endroits où il y avait la mer, il y avait des endroits. Il avait reconstitué tous les paysages qu'on pouvait voir.
À l'intérieur.
À l'intérieur. Alors, l'intérieur, on entrait par un très grand portique, au centre duquel il y avait une statue gigantesque de Néron, qui mesurait 33 mètres de haut. C'était quand même, c'était la statue du soleil, la statue en bronze du soleil, la tête de Néron. Et des rayons tout autour de la tête. Bon, cette statue, nous la connaissons bien, puisqu'elle ne va pas être détruite au moment de la reprise du pouvoir par ceux qui ont suivi. Elle va être gardée. On va refaire la tête pour que ce soit une tête tout à fait neutre. Et on va la placer devant le grand amphithéâtre que fait construire la dynastie des Flaviens, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Néron, Vespasien, Titus et Domitien. Et donc, on va donner à cette statue, évidemment, le nom de Colosse, d'où le nom que porte cet amphithéâtre qu'on appelle le Colisée. Ça veut dire le Colosse, en fait. Et donc, c'est ce qui reste de la maison de Néron. Enfin, il en reste un tout petit peu. Je ne sais plus d'ailleurs si à l'heure actuelle on peut encore visiter à Rome. Il y a quelques années, on pouvait. C'est-à-dire une partie de cette maison extraordinaire. Il avait une salle à manger dont le plafond tournait comme le soleil, enfin comme on imaginait que tournait le soleil, avec tous les astres, avec ce plafond était en or, d'où ce nom de Domus Aurea. Il y avait toutes les distractions possibles à l'intérieur de cette grande maison. Les meilleurs artistes avaient été convoqués pour peindre. On voit encore quelques-unes de ses peintures. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour une fois, la première fois, Néron avait fait appel à des peintres italiens. Et non pas grec, parce que jusqu'à là, tout était grec. Turbulente
flamme. Extrait du film Covadis, avec Peter Ustinov, réalisé en 1951 par Mervyn LeRoy.
Salut, omnivore. Omnipotent. Oui, omnipotent pouvoir, salut. Sénèque, ne trouves-tu pas qu'omnipotent est meilleur ?
Bien meilleur, divinité.
Il n'y a aucune conviction dans ta voix. Tu découragerais les muses. Pétrone, toi qui es mon arbitre des élégances, qu'en dis-tu ?
Je pense qu'omnipotent est bien faible, divinité, et même puéril.
Puéril ? Faible ?
Omnivore est à la mesure de ton sens divin de l'image, c'est à la fois vivant et compréhensible. Un génie, divinité, quelque sujet qu'il aborde, doit toujours s'en tenir à son inspiration première.
Pétrone. Ah, cher Pétrone, que deviendrais-je sans le secours de ta claire intelligence ?
Qui avait accès à cet endroit ?
C'est-à-dire qu'elle n'était pas terminée au moment où Néron a disparu. Donc, il n'y a eu que les ouvriers qui ont vu cette maison. Néron la voyait, puisque quand il la visitait, il disait « Je vais enfin être logé comme un homme », disait-il. Mais il n'y a jamais habité, parce que sa mort est survenue trop vite et la maison n'était pas terminée. Et puis après, il va y avoir ces guerres civiles qui vont durer pendant 2 ans. L'arrivée des Flaviens au pouvoir, c'est-à-dire Vespasien, Titus et Domitien, qui vont la raser, cette maison dorée. C'est-à-dire qu'il y a juste ce petit espace que l'on peut voir encore à Rome. On pouvait descendre, parce que c'est sous terre, bien entendu. On pouvait descendre, mais je me demande si à l'heure actuelle, ça n'a pas été de nouveau refermé. Mais on voyait, il y avait sans doute la fameuse salle à manger avec ce plafond en voûte, qui est extraordinaire. Il y avait encore quelques peintures qui restaient. C'était une
Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait détruire cette maison ?
Parce qu'elle était l'image du tyran qui convenait d'anéantir, quoi.
Plutôt que de se l'approprier, ils ont préféré la détruire.
Ils n'avaient pas du tout ces goûts-là, ceux qui lui ont succédé. C'était des militaires, il n'y avait pas du tout le goût de prendre. Peut-être Domitien, mais Domitien, lui, il l'a fait construire ailleurs, sa villa. Il a fait construire à Castel Gandolfo, là c'est là où est la résidence du pape actuellement, c'était la villa de Domitien.
Donc c'est ainsi que Rome a été reconstruite ?
Oui, Rome a été reconstruite par les Flaviens, donc alors là, l'emplacement de la maison dorée, il y aura en particulier des thermes, des grands thermes qui vont être là, et puis des habitations, et puis de toute façon les empereurs, à partir d'Auguste et tous les suivants, ont habité sur le Palatin, d'où que le mot palatin qui va finir par désigner le palais, quoi. Mm-hmm. Et donc, il n'y avait plus de demeure particulière sur le palatin. Donc, ça ne sera que plus tard où on essaiera d'étendre les demeures impériales à partir du palatin, mais pendant 2 siècles, c'est là qu'habitent les empereurs et leurs familles.
Rome va beaucoup évoluer, la ville va s'étendre, finalement elle va finir par passer le Tibre ou pas ?
Oui, à l'heure actuelle, vous avez quand même un quartier de Rome qui est de l'autre
côté
du
Tibre. Mais à cette époque-là, ça sera dur. Après l'Antiquité.
Rome n'a pas tellement grandi pendant. D'abord parce qu'il y a eu toutes les périodes, des 5e et siècle et suivants, où Rome avait été envahie par les barbares, qui avait quand même pas mal détruit. Et non, ça n'a pas tellement augmenté. Un peu à la Renaissance. Oui, à la Renaissance, on reprendra. Mais parce qu'on construira sur les demeures antiques, en fait. Vous savez, la plupart des palais ou des églises de la Renaissance sont construits sur une ruine antique.
Et sur un modèle à peu près identique où
La Rome n'est pas tellement différente. Le plan de Rome actuellement n'est pas tellement différent. Puis on a vraiment la même... Tout est concentré sur le Capitole, sur l'ancien Forum, qui a quand même été rétabli, mais on voit que c'était beaucoup plus bas. Je ne sais pas si vous connaissez Rome. Eh bien, le Forum romain, on voit bien, il est à plus de 20 mètres dessous du niveau de la Rome actuelle. Parce qu'il a fallu creuser pour trouver, parce que tous les monuments de Rome ont été recouverts pendant les siècles, pas de la terre, et en particulier, on a... sur la via des Forii Imperiales et qui va entre le Forum et le Colisée, on sait qu'en dessous, il y a tous les forums des empereurs. Mais, difficile, c'est la seule grande voie de Rome qui est là. Et si on la supprime, les voitures, elles sont bloquées dans Rome. Parce qu'il faudrait tout détruire, là. Et
avoir accès aux vestiges.
Ah ben oui, on aurait ces magnifiques constructions. Et à l'heure actuelle, il ne nous reste que le Forum de Trajan. C'est le seul qui reste.
Un très grand merci, Catherine Salle.
Je vous en prie, j'étais très contente d'être avec vous.
De nous avoir parlé donc de ce grand incendie de Rome, de l'histoire de Néron et des chrétiens dont on parle souvent, qui a inspiré des films aussi. Le cinéma, c'est en est emparé.
Les romans d'abord, Quo Vadis et compagnie. Oui, il y a Quo Vadis, il y a mais ça se passe pas sous le règne de Néron. Je crois que ça se passe sous le règne de Caligula, qui est plus récent, qui s'appelle La Tunique, qui était pas mal aussi, un péplum pas mal. Il y a eu les Nuits de Néron, je crois. Il y a un film qui s'appelait Les Nuits de Néron. C'était là où on le voyait Parce qu'il était très myope, hein, Néron. Et on le voyait regarder les spectacles du cirque en plaçant devant son œil, pour faire une sorte de loupe de verre, de, une énorme émeraude. Et alors, il voyait tout le cirque en verre. Enfin, c'était magnifique.
Voilà, donc un personnage qui a inspiré la littérature et le cinéma. Et je rappelle que votre livre s'appelle « Le grand incendie de Rome », Catherine Sall, que vous êtes spécialiste de la Rome antique, vous avez enseigné le latin et les civilisations antiques à l'Université Paris 10 Nanterre. Ce livre est disponible chez Talendier. Merci à vous.